Africa.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Mars Africa. Nouvel épisode, nouvelle émission pour pouvoir continuer à vous donner le meilleur de l'information sportive sur notre continent. Nous parlerons de différents sujets, en particulier nous ferons le bilan des compétitions des clubs avec un changement de tendance en Afrique, en Champions League, avec moins d'équipes d'Afrique du Nord et plus d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Nous parlerons des dates FIFA avec déjà des pré-listes, des sélectionneurs confortés, d'autres menaces. Autant dire que nous aurons une émission très très intéressante à vous proposer juste après ce petit morceau de musique. Merci de votre fidélité à Mars Africa. Première escale aujourd'hui, elle se situe du côté du Bénin, Boïkon, avec notre ami Élisée Onkpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Amélie et bienvenue au Bénin.
Alors on va commencer déjà par faire un tour d'horizon des compétitions continentales. Monument en danger, monument qui mord la poussière. On parle du Wydad de Casablanca, qui est le seul grand d'Afrique à ne pas avoir réussi à s'extirper de la phase de groupe de la Champions League.
Et bien évidemment, même sa victoire contre les Ivoiriens d'Asec Mimosa n'a pas suffi hein, pour pouvoir terminer devant la surprenante équipe tanzanienne de Simba, puisque là, les deux équipes finissent hein, à 9 points chacune, mais en matière de goal différentiel, eh bien, les Tanzaniens sont devant le Wydad qui a mal démarré, bien sûr, cette compétition, il faut le rappeler, le Wydad qui a mal commencé cette campagne africaine par deux défaites d'affilée, vous imaginez. D'abord, cette première surprenante à domicile contre les Botswanais de Twaneng et Galaxy. D'ailleurs, la seule victoire botswanaise dans cette phase de poule de Ligue des Champions, c'était du côté de Casablanca, même si le match a été délocalisé, hein, si je me rappelle bien, du côté de Marrakech. Donc, voilà. Donc, c'était une défaite inaugurale qui a beaucoup fait mal hein, à cette équipe Wydadis qui était qui avait remporté il y a cela deux saisons et cette Ligue des Champions. Donc c'est une grosse déception. Après il y a eu changement d'entraîneur qui quand même a donné un petit souffle hein, à cette sélection par la suite, mais cela n'a pas suffi. Puisqu'il fallait déjà battre du côté de Dar es Salaam l'équipe tanzanienne de Simba, ce n'est pas ça n'a pas été réalisé, hein, j'allais dire. Donc voilà un peu cette contre-performance due à ce mauvais départ, due à cette malorganisation hein, qui a coûté cher à l'équipe Wydadis qui, pour la première fois depuis très 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 longtemps, hein, ne participera pas au second tour de la Ligue des Champions africaine de football.
Il y a aussi un changement de tendance sur la Champions League puisqu'il n'y a que deux équipes qualifiées pour les quarts de finale qui appartiennent à l'Afrique du Nord. En général, l'Afrique du Nord est majoritaire. Au moins, elle arrive à placer 50% des qualifiés des quarts de finale. Plutôt, un regain de forme de l'Afrique centrale et de l'Afrique orientale et l'Afrique australe. Comment peut-on situer ce changement de tendance ? Est-ce qu'il est parti pour durer ? Est-ce que c'est un rééquilibrage au niveau du football africain ou c'est juste le fait peut-être que certaines équipes aient eu une mauvaise passe du côté de l'Afrique du Nord ?
Oui, la première, une mauvaise passe hein, du côté de l'Afrique du Nord où depuis déjà 3 à 4 saisons, comme j'ai l'habitude de le dire, le football tunisien, malgré la qualification de l'Espérance de Tunis, n'arrive plus à confirmer. Et l'Algérie vient de le rejoindre. Bon, là, ne parlons même pas de la Libye. Et l'Égypte seule, on a vu depuis des décennies, hein, le national à la Ligue du Caire, le champion d'ailleurs en titre, qui arrive quand même à maintenir le football du Maghreb, bon, pas du Maghreb, le football de l'Afrique du Nord, très haut, suivi des clubs marocains, on l'a vu, le Wydad, mais aussi en temps, le Raja de Casablanca, hein, qui aussi s'est bien lutté dans cette compétition. Maintenant, les choses sont recadrées désormais, puisqu'on a vu que le football de l'Afrique centrale ou orientale a commencé par se faire illustrer sur le continent, notamment le championnat tanzanien qui a commencé par mettre assez de moyens, pour ne pas dire beaucoup de moyens, hein, vous imaginez, même l'ancien champion d'Afrique de la Coupe CAF, hein, l'Algérien qui a été nommé entraîneur de CIMA et aussi des joueurs venus d'ailleurs, des joueurs venus de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et récemment de l'Afrique du Nord, vous imaginez, le gardien de but marocain, champion du Maroc avec le phare du Rabat, est signé dans ce championnat. Donc ça montre combien de fois la force financière a quand même changé totalement ce football et tanzanien. C'est juste le gâteau, eh bien, ces deux grands clubs se sont qualifiés pour les quarts de finale, Simba et Young Africans. Maintenant, l'Afrique de l'Est qui est restée très longtemps, hein, qui a été très longtemps, qui a déçu, j'allais dire très 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 longtemps, hein, puisque depuis le sac de Nimba du Nigeria, eh bien, aucun club de l'Afrique de l'Ouest n'arrive à bien s'illustrer hein, dans cette Ligue des Champions. C'est vrai que avant Enimba, il y avait eu la tech d'Abidjan en 1998, puis après Enimba deux fois. Donc vous imaginez, le football de l'Afrique de l'Ouest n'attire plus. Mais depuis un certain moment, eh bien, la tech d'Abidjan qui a fait une très bonne campagne l'année dernière en Coupe CAF est revenue très en forme en Ligue des Champions. Donc on peut parler de recadrage hein, au niveau de cette Ligue des Champions, mais cela est dû et forcément à la méforme de certains clubs de l'Afrique du Nord, puisque le professionnalisme y est, et on sait combien de fois cela montre bien évidemment la valeur de ce football-là. Maintenant, il y a des clubs qu'on ne peut plus présenter, notamment les Mamelodi Sundowns ou encore le TP Mazembe, malgré que les Congolais ont traversé des moments très difficiles, mais le président Moïse Katumbi a compris, il faudra mettre encore des moyens pour donner un peu du sang neuf dans cette sélection, et bien, c'est chose faite, même si les Corbeaux ont terminé deuxième derrière le récent champion de la nouvelle compétition africaine des clubs. Donc, tout a été recadré, certes, mais ce recadrage, c'est dû aux méformes de certains clubs de l'Afrique du Nord. On a vu le Wydad qui n'a pas pu se qualifier. Et le second club égyptien aussi, Pyramide, qui a eu aussi une force financière, mais pas suffisante hein, pour aller titiller ces nouveaux clubs qui ont commencé par donner du fil à retordre à certains grands du football africain, notamment les clubs tanzaniens et aujourd'hui la SEC d'Abidjan qui fait une fierté du football de l'Afrique de l'Ouest.
Et pour terminer, on va parler un peu du Bénin avec les listes contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui sont dévoilées.
Oui, le technicien franco-allemand qui est notre port a publié hier la liste de 26 joueurs hein, pour pouvoir discuter deux grands matchs, et il faut l'avouer, les deux récents champions d'Afrique, notamment le Sénégal et bien sûr le récent champion, la Côte d'Ivoire. Et parmi cette liste, il y a deux nouveaux seulement. Il y a l'actuel milieu du terrain de l'AS Soliman, première division tunisienne, et puis Lévi Pentagruel, le joueur formé du côté des Girondins de Bordeaux. Sinon, pour le reste, ce n'est que des habitués, même si les habits ne sont pas partagés, puisque parmi ces 26, il y en a qui ne sont plus titulaires dans le club, notamment Chaudel Dossou, encore le gardien de but statinien à Lagoué. Bon, le technicien franco-allemand l'a expliqué, il a besoin de ces expériences-là afin de bien cadrer les jeunes, puisque quand on parle des jeunes, il y en a suffisamment désormais dans cette sélection. Et comme l'a dit Kenneth Rohr, il faut s'inspirer de ce qui s'est passé à la CAN, puisque désormais il y a un nivellement de valeur, il n'y a plus de petites équipes sur le continent. Donc il faudra travailler, suffisamment travailler et faire confiance à cette jeunesse afin de commencer par briller de nouveau, puisque depuis 2019, le Bénin n'a plus eu cette chance ou ne s'est plus qualifié pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une déception. Mmh. Encore que quand Kenneth Rohr a été signé ici, il a parlé des ambitions, de ses ambitions, de l'ambition du gouvernement béninois. C'est bien sûr de participer à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu dans 3 pays.
Merci beaucoup Élisée Onkpatine, rendez-vous la semaine prochaine pour continuer, même pendant le mois de Ramadan, à évoquer l'actualité sur notre continent. Il est 10h15, nous allons bien évidemment continuer à voyager un peu partout. Et ce voyage-là nous permettra d'aller cette fois-ci en Tunisie avec Ahmed Adela. Bonjour Ahmed.
Bonjour cher ami, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Marche.
On peut déjà dire mission accomplie pour l'Espérance de Tunis qui a réussi à s'extirper de la phase de groupe de la Champions League et à figurer parmi les équipes qui disputeront les quarts de finale.
Exactement, tout en sachant que cette édition de la Ligue des Champions en CAF est très importante pour les espérantistes et pour les supporters et fans du football tunisien, puisqu'elle pourrait offrir à l'Espérance un billet de qualification à la prochaine Coupe du Monde des clubs qui aura lieu aux États-Unis. C'était pas un parcours wow, mais c'était pas un parcours vraiment réussi, surtout au départ. Mais là, avec l'arrivée du Portugais Miguel Cardoso à la tête du club, la donne a changé. Le club joue mieux, produit un football qui est plutôt plaisant et l'Espérance a fait le nécessaire en se qualifiant au quart de finale. Et comme l'avait dit le gardien de but expérimenté de l'Espérance sportive du tennis qui n'est plus titulaire, Mouaz Bechrifi, c'est la place normale et habituelle pour un club comme l'Espérance de Tunis.
En revanche, gros fiasco en Champions League pour l'Étoile et surtout en Coupe de la CAF, on ne s'y attendait vraiment pas pour le club africain.
Exactement. Bon, le fiasco pour l'Étoile, c'était prévisible vu la situation par laquelle passe le club, l'interdiction de recrutement, les problèmes sur le plan administratif, les problèmes liés aux finances du club. Mais pour le club africain, c'était vraiment un choc. Inattendu, surtout que le club africain avait la qualification. Le destin, il dépendait que du club africain. Il pouvait facilement gagner un club qui est dernier de tableau, qui n'a remporté aucun point, qui a encaissé 16 ou 17 buts. Et là, face au club africain, il a réalisé un de ses meilleurs matchs sur le plan continental, bien évidemment, en arrachant un nul aux 10 dernières minutes de la rencontre qui a été disputée à Rades. Et le club africain va certainement, ça a laissé des conséquences déjà et des séquelles, et ça va encore faire parler autour du club.
Alors on va aussi évoquer la sélection tunisienne. Il y a les prélistes qui sont en train de tomber, les listes définitives pour les dates FIFA qui auront lieu à partir de la semaine prochaine seront bien évidemment dévoilées dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a quelques tendances au sein de cette équipe tunisienne qui va vivre une période de transition en attendant de trouver un sélectionneur titulaire?
Bon, la liste n'a pas été encore annoncée. Elle sera annoncée peut-être au cours de la semaine prochaine après la fin de la deuxième journée des playoffs. Mais les présélections et les préconvocations ont été envoyées à plusieurs joueurs qui ont voulu dans des championnats étrangers. On n'a pas encore une idée sur les noms qui peuvent intégrer le groupe pour la première fois ou de revenant, mais il y aura peut-être des surprises, à l'instar du gardien de l'Espérance sportive de tennis, le jeune Amanallah Memich, qui est devenu titulaire et qui réalise des clean sheets. On ne sait pas, on n'a aucune date par rapport à l'annonce de la liste. On ne sait même pas s'il y aura une conférence de presse ou pas, tout en sachant que la sélection tunisienne va participer à un tournoi FIFA amical Wings United qui aura lieu en Arabie, aux Emirates, et qui verra la participation de la Tunisie, qui affrontera évidemment la Croatie dans le premier match. Il y aura aussi l'Égypte et la Nouvelle-Zélande.
Alors on va parler un peu de championnat tunisien. Il y a un duel au sommet demain entre l'Étoile et l'Espérance. On parle de play-off et on parle de Mejmoua Tetoui, c'est-à-dire les play-off pour le titre.
Exactement. Toutes les rencontres des play-offs sont des sommets, en fait, Amine, parce qu'il y a 6 clubs. Il y a un club qui participe pour la première fois au play-off, à l'instar du Stade tunisien, qui a réalisé un très bon parcours cette saison et depuis la saison passée d'ailleurs. Il y a l'USMO, l'Union sportive monastérienne, il y a le club africain, l'Espérance de Tunis, le club sportif sfaxien et l'Étoile du Sahel. Donc chaque journée, il y aura un classico, un derby ou un grand match au sommet. Demain, l'Étoile sportive du Sahel va accueillir l'Espérance sportive de Tunis au stade olympique de Sousse. Ça sera un match très attendu, malgré que les matchs de la première journée étaient décevants sur le plan physique, tactique, parce que il faut pas oublier que ce championnat reprend après presque 2 mois et demi, 2 mois et 5 jours ou 10 jours de repos pour le club. Donc on n'a pas vu grand chose. On s'attend à un match au sommet demain. Aujourd'hui, le club africain affrontera l'USMO et l'Union sportive monastérienne, et le club sportif sfaxien va affronter le Stade tunisien ici à Tunis.
Merci beaucoup Ahmed Adela. Rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, pour pouvoir faire un nouveau tour d'horizon de l'actualité tunisienne. Il est 9h20 GMT, direction la Côte d'Ivoire. Cap sur Abidjan avec Elisabeth Goli, bonjour. On a du mal à t'écouter, Elisabeth. Je suppose que tu utilises le kit. Alors, je crois qu'il va falloir utiliser le téléphone de manière normale pour pouvoir te faire entendre, s'il te plaît.
C'est normal que j'utilise. Hein.
Voilà, c'est mieux. Alors, Elisabeth, l'ASEC d'Abidjan finit premier de son groupe en Champions League en dépit d'une défaite à Casablanca. On peut d'ores et déjà faire un premier bilan. Et l'objectif initial, passer la phase de groupe, est assuré pour un club qui avait disparu de la circulation sur le plan de la Champions League depuis de très nombreuses années.
Oui, effectivement, cette année, la SEC est en train de faire, parce que là, ce n'est pas encore fini. La SEC finit premier de son groupe, donc la compétition suit son cours, elle continue. Et là, la SEC a fait une très belle moisson déjà pour un début, pour un retour sur la scène continentale. Et au niveau des Mimosas, l'objectif cette année, vraiment, c'est de retrouver la glorieuse équipe de la SEC Mimosa, qui a écrit aussi l'une des plus belles pages du football continental. Et donc Maître Roger Wagner, l'entraîneur, tous les joueurs aujourd'hui, ils n'ont Dieu que pour le trophée. Vraiment, surtout, ils sont requinqués surtout par cette victoire, cette troisième étoile des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, qui aujourd'hui donne vraiment envie à toutes les disciplines, parce qu'il n'y a pas seulement que le football, donne vraiment envie à toutes les disciplines de monter sur la première marche de chaque compétition. Et c'est ce que la SEC est en train de faire. La SEC se prépare vraiment activement à pouvoir remporter ce trophée-là et revenir vraiment sur les premières marches du football africain, du football des clubs africains.
Et au niveau du football des sélections, le champion d'Afrique en titre va se remettre petit à petit dans la compétition pour préparer les échéances des éliminatoires de la Coupe du Monde avec des dates FIFA, et notamment un derby d'Afrique de l'Ouest contre le Bénin. Alors, est-ce qu'on a des tendances par rapport à la première liste post-CAN d'Emers Faye?
Pour le moment, il n'y a aucune tendance. Il est attendu la semaine prochaine pour donner la liste des joueurs. Mais on sait que, comme lui-même il a dit, ça va se faire avec la forme du moment. Et on sait qu'aujourd'hui, tous les joueurs qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations sont tous en forme. Ils ont tous envie vraiment de figurer parmi les joueurs pour participer à toutes les compétitions. Et comme je le dis, ils sont vraiment requinqués. Ils ont vraiment envie de faire chose. Et on voit Dengra, Simon Adengra, qui pète vraiment la forme. Vraiment, tous les joueurs, que ce soit Ivan Mbeka et autres, il y a aussi, ils sont tous en forme. Et aussi, il faut mettre l'accent sur cette concurrence qui a été lancée au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être que l'on n'a peut-être pas fait attention, mais tel que Faye a utilisé les joueurs, il les a tous mis en concurrence, inconsciemment ou consciemment, il les a mis en concurrence et aujourd'hui, personne ne veut perdre sa place. Tout le monde veut vraiment ça. Les joueurs rivalisent d'ailleurs, si bien que de retour de la CAN, ils sont tous compétitifs, ils inscrivent des buts, soit ils inscrivent des buts, soit ils sont tous passeurs. Et jusque-là, un mois après la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vraiment une fantastique équipe. C'est vraiment des fantastiques joueurs que l'on retrouve dans les différents clubs. Et la sélection ne sera pas du tout facile. Et aujourd'hui, il faut dire que les places vont s'arracher et nul ne viendra maintenant en équipe nationale parce qu'il s'appelle Tantan, mais il viendra parce qu'il est en super forme. Il a une très belle performance au sein de son club.
Merci beaucoup, Elisabeth Gaulier. On se retrouve samedi prochain, si tu le veux bien. Il est 10h24, cap sur la République démocratique du Congo avec Michel Tobo. On va faire un petit tour d'horizon, un petit bilan de la participation des clubs congolais, en particulier du TP Mazembe qui retrouve sa place dans la cour des grands. Bonjour Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. C'est toujours avec un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de votre radio justement pour cette petite analyse de l'actualité sportive en République démocratique du Congo. On va commencer par les compétitions africaines interclubs avec la qualification. Ça, on l'avait déjà dit depuis le samedi dernier du Tout-Puissant à Mazembe pour les quarts de finale de cette compétition de Tout-Puissant Mazembe qui a largement assuré sa qualification. C'était déjà face à la formation de Pyramide, 3-0. Voilà, le match qui s'est joué le week-end dernier, c'était juste pour la formalité. Les deux équipes entre les Sundowns et les Tout-Puissants Mazembe se croisaient justement pour se départager, qui allait justement prendre cette première place. Donc Mazembe s'est incliné. Mazembe va donc jouer son quart de finale aller à Lubumbashi. Ça sera l'occasion de faire la différence, tout simplement, comme ils l'ont fait face à Pyramide lors du match à retour. Il faudra mettre toutes les batteries en marche pour essayer justement de se mettre à l'abri pour cette première manche, essayer d'aller justement gérer lors du match à retour. Mazembe, c'est vraiment un renouveau que Lamine Ndiaye a amené, l'entraîneur sénégalais de cette formation congolaise depuis son retour cette saison. En tout cas, on sent un nouveau à Mazembe, contrairement aux deux, trois précédentes saisons où on a senti vraiment qu'il y avait une baisse de régime assez conséquente quand même. Les répercussions se sont fait sentir pour le Tout-Puissant Mazembe alors les compétitions africaines interclubs, même sur le plan local ici. Mais depuis le début de cette saison, on sent un Mazembe revigoré avec beaucoup d'ambition, clairement. Là, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. On rappelle quand même, Mazembe, c'est le seul représentant qui est resté du côté de la République démocratique du Congo après l'élimination des 20 clubs et de FC 7 Doigts Loupopo préliminaire de ces compétitions. Donc là, Mazembe est en train de remettre encore le nom de la République démocratique du Congo sur la scène continentale. Tant mieux, ça ne peut que nous faire plaisir et on espère, on croise les doigts que Mazembe va aller le plus loin possible dans cette compétition. Pour venir aux sélections nationales, les joueurs de la République démocratique du Congo, malheureusement, n'auront pas de stage pour ce mois de mars pour une raison assez étonnante. Je ne cesse jamais de vous le dire sur vos antennes que le football congolais est je dirais pas malade, mais a quand même énormément de difficultés. Pas seulement le football, le sport congolais a énormément de difficultés. Les Léopards n'auront pas de stage pour ce mois de mars pour la simple et bonne raison que la sélection nationale et le gouvernement ne se sont pas accordés en rapport avec les finances, tout simplement. C'est la seule raison pour laquelle les Léopards ne vont pas avoir un stage au mois de mars ici. C'est qui est vraiment, vraiment, vraiment une erreur. Je n'aimerais pas prononcer des mots durs ici sur vos antennes, mais c'est vraiment une erreur. Et c'est une dynamique qui va être cassée, tout simplement, de la Coupe d'Afrique des Nations où les Léopards ont terminé à 4e. Il fallait continuer sur cette dynamique parce qu'il y a des jeunes joueurs qui sont en train de frapper à la porte de cette sélection des binationaux, voilà, avec l'engouement qu'il y a eu avec la dernière Coupe d'Afrique de Nations. Et là, il n'y aura pas de stage, tout simplement. Et voilà, on se reverra au mois de demain pour jouer face au Togo et au Sénégal pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est quand même assez dommage, voilà, tout simplement. Voilà, c'est le football en vie démocratique du Congo, c'est le sport en vie démocratique du Congo. C'est quand même assez dommage. On espère que cette dynamique ne sera pas totalement cassée, bien que ça m'a l'air d'être le cas, en tout cas pour le fait que ce stage n'aura pas lieu. Mais voilà, Sébastien Desabre, c'est un professionnel, il fera de son mieux justement pour essayer de constituer une équipe qui ira à l'assaut, voilà, des éperviers du Togo ainsi que des Lions de la Teranga du Sénégal pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, Amine Birouk, c'est le peu que j'avais à vous dire, hein, par rapport à ma petite intervention de ce samedi. Merci infiniment de m'avoir accordé ce petit temps. On se retrouvera certainement le samedi prochain encore pour une autre intervention. Merci à vous et merci à l'ensemble de vos auditeurs qui m'ont suivi avec beaucoup d'attention. Merci à vous et on se retrouvera le samedi prochain.
Au revoir. Et merci à notre ami Michel Tobo de nous avoir accordé ces quelques minutes pour faire le tour d'horizon de l'actualité de la RDC, en particulier celle du TP Mazembe. Après la pause pub, nous continuerons avec la deuxième partie de Mars Africa. 10h30 à Casablanca, 9h30 à Bamako. On retrouve à présent sur Mars Africa notre ami Drissa Nyono. Bonjour Drissa.
Bonjour Amine, bonjour à toutes et à tous.
Énorme déception du côté du stade malien après la défaite de dimanche en Coupe de la CAF face à la Renaissance sportive de Berkane 3-0. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu photo sur ce match-là, ou bien il y a des conclusions plutôt positives à tirer de cette défaite malgré tout? Drissa? Alors, visiblement, petit souci de connexion avec Drissa Nyono. Drissa, tu nous entends? Alors, on va essayer très vite de rectifier le tir et de pouvoir retrouver Drissa Nyono du côté de Bamako, capitale du Mali, pour parler un peu de cette équipe du stade malien. Alors, Drissa, tu nous entends cette fois-ci? Tu en reçois?
Exact, oui, je suis là cette fois-ci, Amine Birouk, je suis là.
Bonjour. Alors, on disait énorme déception du stade malien, défaite 3-0, mais y a-t-il des conclusions à tirer de cette défaite à Berkane?
Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans la poule du stade malien de Bamako, la Renaissance, en tout cas, de Berkane, partait largement comme l'équipe favorite. Alors, derrière elle se trouvait bien évidemment le stade avec son titre rapporté en 2019, mais bien évidemment, c'est que c'est la manche qui a été vraiment haute, qui a été vraiment haute pour les Blancs de Bamako, parce que la différence s'est sentie sur le terrain, que la Renaissance de Berkane était beaucoup plus supérieure lors de ce match de retour face aux Blancs de Bamako. Alors, le premier objectif, il faut souligner par les dirigeants après cette défaite, 3-0 du côté de Berkane, c'est que d'abord, il voulait partir et préparer les échéances futures, là d'abord en essayant d'aller affronter l'adversaire direct et s'acclimater d'abord de l'atmosphère qui peut les attendre peut-être du côté de l'Algérie ou peut-être du côté de l'Égypte ou côté du Ghana. Bien évidemment, ce sont les trois clubs, ce sont les trois équipes dont notamment l'USM Alger, le Zamalek ou encore le FC Dreams du Ghana qui sont les possibles adversaires du stade malien de Bamako. Et là, sur le terrain, la différence a été sentie jusqu'à ce qu'après cette défaite, il ait des rumeurs annoncées ici à Bamako, le départ du sélectionneur Bako Sek. Non, finalement, la direction a apporté et son soutien au coach, parce que c'était les supporters également qui ont exprimé cette volonté, parce qu'ils ont dit que leur équipe, ils n'ont pas senti leur équipe, et depuis quelques journées, notamment au nouveau local, le stade peinait à gagner. Alors, les dirigeants ont dit qu'avant d'engager le coach, on lui avait dit d'essayer d'abord de faire qualifier le stade en phase de poule et ensuite sortir des deux premiers. Et cet objectif a été atteint. Mais lors de ce match face à la Renaissance de Berkane, il s'est trouvé que la manche a été très haute pour les Blancs et ils ont shooté lourdement du côté de Berkane. Mais ça va être une défaite où il faut tirer d'enseignement pour préparer les échéances futures. Et du côté du stade malien de Bamako, les dirigeants ont apporté leur soutien au coach et ils ont dit qu'il va continuer jusqu'à la fin de la saison.
Alors, on finit avec les Aigles du Mali. Prochaine liste à publier ou à annoncer dans les prochains jours. Il y aura notamment un match contre la Mauritanie en amical le 22 mars au Maroc. Et visiblement, Eric Schell est en train de chercher des petites pépitres, des perles rares, souvent ex-joueurs de l'équipe française olympique. On parle en particulier de l'attaquant Moussa Sylla. Est-ce que ça se confirme ou pas, le joueur de Pau?
Exactement, et ça se confirme. L'attaquant Moussa Sylla a donné également son accord pour évoluer avec les ex. C'est que son grand frère Yacouba Sylla avait joué pour l'équipe et il avait été capitaine des Aigles par le passé. Et il n'y avait pas eu de discussion engagée pour parler avec le jeune frère dans le but de le faire jouer en équipe nationale senior. Ce qui a été fait lors du week-end dernier par le sélectionneur Eric Schell, qui est pour l'instant à Bamako. Et au-delà de Moussa Sylla, il y a Modibo Sana qui pourrait connaître également ses premières minutes avec les Aigles du Mali. Il y a le jeune également Cheikh Oumar Konaté et qui a été formé ici au centre JMG et qui évolue du côté de Clermont et qui fait de belles choses avec sa formation. Et donc ce sont certains secteurs qui ont été ciblés par le sélectionneur après cette défaite face à la Côte d'Ivoire où des insuffisances ont été senties au niveau défensif et également au niveau offensif. Et après ce traumatisme national, hein, il a été organisé à Mindourou ces derniers jours un symposium de 3 jours autour des Aigles pour connaître leurs problèmes et trouver des solutions pour le futur. Et le sélectionneur, il était là. Il a évoqué certaines insuffisances et des dispositions ont été prises pour renforcer surtout le staff technique des Aigles et notamment le staff médical pour apporter l'assistance qu'il faut pour les échéances futures. Alors, le Mali va jouer 2 matchs amicaux et ces 2 matchs amicaux vont se jouer du côté de Marrakech. Le premier, ce sera le 22 mars à Marrakech et le second, il va être confirmé d'après nos informations dans les jours ou sinon même dans les heures à venir, ce sera contre le Nigeria le 26 mars du côté de Marrakech pour préparer la prochaine fenêtre internationale du mois de juin où le Mali doit jouer le Ghana et également le Madagascar. Alors, les Aigles, pour l'instant, le coach, il est en tournée, il est à Bamako, il a effectué une tournée pour aller remobiliser sa troupe parce que la défaite, elle a été beaucoup vécue, elle a été sentie également au sein du staff et il fallait engager une discussion également avec les joueurs qui ont vécu cet événement au mois de février dernier du côté d'Abidjan pour qu'ils puissent être motivés pour les échéances futures. Ce qui a été fait par le sélectionneur et le premier vice-président de la Fédération malienne de football. Et dans les jours à venir, la liste, elle va être communiquée le vendredi prochain au sein de la Fédération malienne de football.
Merci beaucoup, Drissa Niono. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à parler de football malien. Et on ira, bien évidemment, au fond des choses à chaque fois, comme nous avons l'habitude de le faire sur Mars Africa. 10h38, allez, hein, on va souffler un tout petit peu en musique et tout juste après, nous continuerons à faire nos petits voyages un peu partout sur notre continent. Longing to see.
Oh, Benzema. This kind dance, you the dance, I'm doing the singing, you doing the dancing, Benzema. Why the for her, Benzema? Why you want it all, I'm Benzema. This kind dance, you the dance, I'm doing the singing, you doing the dancing, Benzema. Maybe some of them are like I do. So down, down, the back when I love one, make a note. I think of your body, think of your body, put that in your.
Direction Conakry en Guinée pour parler avec Chérif Alio de l'actualité du Sili National et d'eau et des clubs. Il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour Chérif Alio.
Bonjour Amine, bonjour tout le Maroc.
Alors on va commencer déjà par l'actualité du Sili National et penser à la prolongation, évoquer la prolongation de contrat de Kaba Diawara qui va continuer à la tête du Sili.
Oui, Amine, le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, s'est vu prolonger son bail à la tête du Sili National de Guinée. Cela vient récompenser le parcours effectué par l'équipe guinéenne lors de la dernière Coupe d'Afrique qui s'est disputée en Côte d'Ivoire, où la Guinée avait terminé au stade des quarts de finale, éliminée par la RD Congo, score final à 3-1. Mais voilà, on retiendra surtout les matchs effectués par la Guinée, notamment dans le contenu du jeu, ce qui a nettement donc pesé dans la balance pour donc prolonger Kaba Diawara à la tête du Sili, des Guinées en tout cas. L'annonce est tombée ce mardi par la Fédération guinéenne de football, donc qui décide de prolonger Kaba Diawara pour les prochaines séances à venir, parce que vous savez que la Guinée disputera très bientôt les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mais également de la Coupe du Monde. Ce sera donc avec Kaba Diawara qui aura une nouvelle fois l'occasion en tout cas de qualifier le Sili de Guinée. Ce petit bémol, c'est que la durée du contrat n'a pas été définie par l'instance dirigeante du football guinéen, mais toujours est-il que Kaba sera toujours commande de l'équipe nationale de Guinée.
Justement, je rappelle que l'équipe nationale de Guinée devrait, la coopération entre le Maroc et la Guinée va dans la bonne direction, et je pense qu'elle le fera, et que ce sera le cas, recevoir lors des prochaines dates FIFA à domicile. C'est l'objectif. Et c'est l'objectif promis par le chef de l'État guinéen qui veut mettre le Sili National dans les meilleures conditions possibles.
Absolument. C'est un temps. La Guinée a joué tous ses matchs en déplacement, vous le savez, Amine, notamment au Maroc. Et donc, non, c'est sans surprise que la Guinée va une nouvelle fois fouler le sol marocain, son pays frère, pour donc disputer ses différents matchs. Il faut ajouter à cela, Amine, que la Guinée va disputer deux matchs amicaux lors de la prochaine fenêtre FIFA. Ce sera du côté de l'Arabie Saoudite, lors du tournoi initié par la FIFA, tournoi dénommé donc FIFA Series, qui regroupera donc un certain nombre de nations qui vont s'affronter, bien évidemment. Alors la Guinée sera en compagnie, bien évidemment, de l'équipe de Vanuatu et des Bermudes. Match donc prévu les 23 et 26 mars prochains du côté de l'Arabie Saoudite pour donc pourquoi pas préparer les prochains rendez-vous de la Guinée.
Et ce sera malheureusement sans Mourtar Diakabi qui a subi une très grave blessure lors du match de Liga samedi dernier entre Valence et le Real Madrid. Des nouvelles du joueur, Chérif Alio?
Ah oui, Mourtar Diakabi qui s'est gravement blessé contre l'équipe du Real Madrid, mais on a pu en tout cas lire les posts de Mourtar Diakabi sur son compte X Bien évidemment, où il rassure le public guinéen comme quoi tout va bien, on le voit tout sourire. C'est ce qui est vraiment important parce que la guérison, elle est d'abord mentale. Voilà, et on sent que Moukhtar Diakabi, mentalement, il est bien, malgré cette blessure-là qui pourrait l'éloigner des terrains pour une année, voire même plus, hein, parce qu'on parle de luxation du genou droit. Et donc voilà, il pourrait manquer plus d'une année de compétition, mais Diakabi reste tout de même positif. D'ailleurs, lire un petit communiqué également de son entraîneur qui lui a envoyé un message assez fort, Kamadou Ara, et tout comme la plupart des joueurs du sud de Guinée qui restent donc de cœur avec Moukhtar Diakabi. Et il y a aussi le peuple guinéen vraiment qui n'a cessé d'envoyer des zones positives à Moukhtar Diakabi, hein, qui depuis son arrivée au Sili vraiment a mis tout le monde d'accord, hein, sur sa rigueur, sur sa discipline défensive. Mais là, voilà, malheureusement, on va le perdre pour quelques mois. On espère qu'il reviendra très très fort pour donc tenir sa place dans la charnière défensive du Sud de Guinée.
Et pour terminer, en compétition des clubs, on fait un petit bilan de la Coupe de la CAF pour le seul représentant de la Guinée. La marche était trop haute pour l'équipe de soir qui n'a même pas disputé son dernier match, sa dernière représentation face aux Zamalek.
Absolument. Apprentissage difficile pour l'équipe de Soar Academy qui jouait pour la première fois en campagne africaine. Malheureusement, le seul représentant guinéen dans cette compétition interclub de la CAF a déçu nettement, puisque en 5 matchs, c'est 4 défaites pour Soar Academy, pour un seul nul, 0-0 qui plus est. Et donc voilà, c'est une déception totale, hein, pour l'équipe de Soar Academy qui n'a pas disputé son dernier match, match de la 6e journée contre le Zamalek, pour des questions administratives, parce que l'équipe s'est rendue à Bamako mais n'a pas pu effectuer le déplacement sur l'Égypte parce que les billets n'ont pas été émis. On a eu le président de Soar Academy, Albami Silla, qui lui atteste le contraire. Il dit que tous les billets avaient été déjà calés pour ce voyage-là, sauf que la compagnie qui devait donc délivrer les billets, ben, a dit le contraire. Et ben, du coup, Soar Academy est resté à Bamako, n'a donc pas pu faire le déplacement. Soar Academy a donc envoyé un courrier à la CAF dans ce sens-là pour essayer de reporter le match. Mmh. Le courrier qui est arrivé à la CAF, la CAF a dit prendre note. Eh bien, on verra bien, hein, si la CAF va faire rejouer le match ou si Soar sera purement et simplement disqualifié. Mais ce qui reste clair, c'est que les carences sont déjà cuites pour Soar Academy, hein, déjà éliminé de la compétition. Voilà. En tout cas, c'était compliqué, hein, pour le seul club guinéen engagé en interclub. Conséquence, Amine, c'est que la Guinée pourrait perdre des indices et du coup, on pourrait se retrouver non plus à 4 clubs en campagne interclub de la CAF, mais seulement à 2 clubs, voilà, chaque saison, parce que derrière, il y a la Côte d'Ivoire qui pousse avec la SEC, qui fait mieux, et ben voilà, la Côte d'Ivoire, donc, qui pourrait prendre la place de la Guinée au niveau de la zone ouest-africaine, malheureusement, parce que le seul club qui le faisait avant, le Oroya, est en panne depuis maintenant quelques temps, voilà, le club des Rouges et Blancs de Matam est en train de se refaire une santé, et le Afia a essayé, ça n'a pas marché, et donc voilà, pour l'instant, en tout cas, on va dire que le football guinéen se porte pas bien. On espère qu'avec la nouvelle classe dirigeante de la Fédération guinéenne de football, les choses vont repartir de plus belle et que la Guinée va rayonner, hein, les années à venir sur le continent.
Merci. On se retrouve la semaine prochaine, Chérif Aliou. On franchit juste la frontière. Hein. On passe de la Guinée au Sénégal dans quelques instants pour retrouver Bakary Cissé. On va parler de deux sujets qui intéressent le football sénégalais, en particulier la sélection sénégalaise. Bonjour, doyen Bakary, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien du côté du Sénégal? Bakary Cissé qui devrait dans les prochaines heures, je le rappelle, partir en Arabie Saoudite pour assister au match de quart de finale de la Ligue des Champions, match retour entre Nasr d'Arabie Saoudite, où évolue son petit protégé, son chouchou, Sadio Mané, et l'équipe de la Ligue des Émirats Arabes Unis. Alors, on va essayer de le joindre parce que visiblement, c'est en cours. On va voir aussi du côté de William Tchango s'il y a moyen d'entrer en contact avec lui pour pouvoir continuer l'émission dans les meilleures conditions possibles, donner le maximum d'informations. William Tchango, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les panélistes.
Alors, du rififi, de l'électricité dans l'air au Cameroun, avec notamment beaucoup de critiques à l'encontre de la gestion des liaisons des indomptables de la part du tandem Samuel Eto'o-Rigobert Song. Il y a même le neveu de Rigobert, l'ex-joueur d'Arsenal du Barça, Alexander Song, qui est monté au créneau.
Ben absolument, je crois qu'il était invité à l'émission Foufou Foot en début de semaine sur les antennes de la CIR TV, la télévision nationale camerounaise. Il a clairement estimé que il n'était pas intéressant pour lui de mettre en à nouveau un sélectionneur camerounais à la tête des Lions Indomptables. Et je pense que il le dit certainement en connaissance de cause. Il est bien placé pour savoir ce qu'aura vécu Rigobertson comme pression à la tête de la sélection camerounaise de football. Et lui-même, il a dit, il a été dans la tanière à l'époque où sont passés certains sélectionneurs camerounais à l'instar de Jean-Paul Akono. Et je crois qu'il a dit un peu tout haut ce que pense tout bas beaucoup d'observateurs au Cameroun, parce que généralement, quand on installe un sélectionneur camerounais à la tête des Lions Indomptables, il ne bénéficie généralement pas des mêmes privilèges qu'un étranger. Et du coup, cette précarité sur le plan financier, sur le plan du traitement, ça peut l'amener parfois à devenir pratiquement le marchepied de certains joueurs. De certains joueurs professionnels bien riches qui peuvent se permettre un certain nombre de caprices, et ça s'arrête pas là. Et puis lorsque l'administration fédérale désigne un entraîneur local, généralement c'est pour que celui-là fasse sa volonté, et l'exemple de Rigobertson est là pour illustrer. On sait carrément, et c'est une la palissade d'ailleurs, que Rigobertson était là justement pour assumer toutes les volontés, pour assouvir toutes les volontés du président de la Fédération camerounaise de football. Et ça se faisait à ciel ouvert. Donc, après cette expérience-là, c'est normal qu'il faut que les gens soient prudents et qu'ils se disent qu'avec un tel exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football, il sera impossible pour un entraîneur local de travailler, d'avoir les mains est totalement libre, d'avoir de bonnes marges de manœuvre pour manager de manière autonome, de manière indépendante cette sélection camerounaise. Donc, je beaucoup souscrivent à son idée, et ça sert à rien de faire semblant en prônant un patriotisme, à mon sens, béat, et alors que sur le plan de l'efficacité, on serait très loin de ce que pourrait apporter un sélectionneur étranger qui viendra bien sûr avec l'ambition de marquer son passage, d'écrire son nom, qui sera un peu éloigné de nos bisbilles camerounaises, de nos habitudes camerounaises. Donc je pense que le seul fait de savoir que c'est un étranger, c'est un entraîneur.
Ça facilite la tâche et ça oblige Samuel Eto'o, bien sûr, à prendre ses distances et à laisser un peu le sélectionneur travailler. En tout cas, on touche à la fin de l'émission. Merci beaucoup, William Tchango. On t'accordera plus de temps la semaine prochaine. Cap sur Dakar pour terminer. Dans quelques instants, ce sera Bakary Cissé de nous proposer le must de l'actualité sénégalaise. Bonjour, doyen.
Bonjour, la famille.
Alors, on va parler déjà d'Aliou Cissé, conforté dans ses fonctions par la Fédération sénégalaise. Pourquoi ça a pris autant de temps, Bakary?
Je disais que... Oui, vous m'entendez?
Oui, ça va.
Vous m'entendez?
Oui, ça va, beaucoup mieux.
Voilà, je disais que Aliou Cissé n'est pas conforté, Aliou Cissé est...
Alors, on va essayer de passer autrement, rapidement, avec Bakary Cissé pour clore ce programme. Ce sont les aléas du direct. On s'y fait, on s'habitue. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. L'essentiel, c'est de donner le maximum d'informations et de pouvoir faire le tour du continent. Nous avons fait l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Et prochainement, nous ferons l'Afrique, australe, et peut-être, pourquoi pas, l'Afrique de l'Est. Parce que l'objectif, c'est d'enrichir l'émission et de parler dans les différents idiomes, dans les différentes langues de notre continent, en tout cas les langues officielles. Bakary Cissé, on disait, Aliou Cissé conforté ou tout simplement rassuré ou maintenu?
Justement, Aliou Cissé maintenu, j'allais dire, ou rassuré si vous voulez bien, d'autant plus que son contrat
le contrat qui le lie à la Fédération sénégalaise de football court jusqu'au 31 août 2024, ce qui veut dire que oui, les férus du football dans le landerneau du football sénégalais, il y avait beaucoup de voix s'étaient élevées pour demander le départ d'Aliou Cissé, qui vient de boucler sa 9e année à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Mais la Fédération sénégalaise de football n'a pas suivi cette plaidoirie de ses observateurs. Pour elle, Aliou Cissé est toujours l'homme de la situation, parce qu'ils n'ont pas oublié que quand ce monsieur venait à la tête de cette équipe nationale du Sénégal, l'équipe était pratiquement en lambeaux. Donc, et aujourd'hui qu'il a fini de tisser sa toile, il a fini de mettre de l'ordre entre guillemets dans sa tanière, et il pense qu'aujourd'hui Aliou Cissé a toujours le vent en poupe. Maintenant, derrière, en tant qu'observateur, moi je me dirais que ça c'est du saupoudrage. Je respecte franchement la décision de la Fédération sénégalaise de football, parce que je vais toujours sur le principe d'un contrat, parce qu'Aliou Cissé, il a signé un contrat de revalorisation de son salaire le 7 de novembre dernier. Et dans son contrat, on l'a prescrit trois objectifs. Le premier voudrait qu'il amène le Sénégal jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et le deuxième, c'est que le Sénégal doit se qualifier à la CAN 2023. Et le troisième, c'est que le Sénégal doit conserver son titre de champion d'Afrique. Maintenant, de tous ces objectifs, il n'a réussi qu'un seul, qui voudrait que le Sénégal soit qualifié à la CAN. Ça, c'est vrai. Et dans le contrat, j'ai toujours dit que moi, j'ai eu la chance de voir le contrat et je l'ai toujours dans mon téléphone, que le contrat d'Aliou Cissé, il n'est jamais mentionné que s'il n'atteignait pas ses différents objectifs, il serait viré. C'est pourquoi je dis que là, je pense que la fédération a fait ce qu'on appelle de la jurisprudence. Maintenant, après, on pourra toujours dire que dans toutes les organisations, les coachs sont souvent virés et quand le résultat n'est pas là, mais aucun coach n'acceptera de signer un contrat d'objectif. L'un dans l'autre, Aliou Cissé va continuer son aventure à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Et d'ailleurs, ce qui fait que pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la CAN, les deux premiers matchs amicaux qui profilent à l'horizon, Aliou Cissé a jeté les bases déjà avec une présélection de 31 joueurs et la surprise générale, c'est l'arrivée du jeune Amara Diouf qui a 15 ans, qui va découvrir pour la première fois la tanière.
Amara Diouf qui ne figure pas dans l'équipe engagée dans les Jeux africains, qui a battu le Soudan du Sud. On en parlera la semaine prochaine, Bakary Cissé, si tu le veux bien, pour pouvoir bien évidemment donner le maximum d'éclairage sur l'actualité du Sénégal, amis et frères. Merci beaucoup, doyen. Bon voyage pour l'Arabie Saoudite et bon match, puisqu'il y aura la Champions League asiatique. Et notamment, je l'avais évoqué, la confrontation entre Nasser de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et l'Aïn des Émirats Arabes Unis de Soufiane Rahimi. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Ainsi prend fin Mars Africa. Merci à notre ami Absamad qui a assuré la liaison avec tous nos correspondants, la mise en onde et la réalisation. Dans quelques instants, il n'y a pas que le football, mais Kejre El Koura, précédé du Flash Info de 11h. Bonne semaine, bonne fin de semaine, bon week-end.